Eh bien, l'introduction va me permettre justement d'enchaîner et vous dire d'où je parle. C'est tout à fait vrai, employé au moins à mi-temps par une association. Et c'est, je pense, la raison pour laquelle Jean-Marc Lange m'a demandé de venir parler du partenariat entre l'école et les associations. Mais je ne suis pas un militant, bien que je sois employé par une association, je ne suis pas un militant. Et même du point de vue du développement durable, je suis de l'éducation à l'environnement, je suis quelqu'un d'extrêmement modéré pour travailler dans les pays du tiers-monde. Je pense que les problèmes de développement, tout court, sont au moins aussi importants que ceux du développement durable. Donc, j'ai une position relativement critique, à la fois sur les questions du partenariat, sur les questions d'éducation au développement durable, et conformément au canon mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, je suis hors de tout prosélytisme associatif. Donc c'est une position qui n'est pas forcément, enfin qui est un peu ambiguë, mais qui est la mienne. Je suis comme chercheur, je garde toujours une position critique. Voilà. Alors comment je souhaitais mettre en place l'atelier de cet après-midi. Faire une grande déclaration, un discours d'une heure et ensuite vous faire travailler après cela, ça ne me convient pas du tout. Je suis du point de vue pédagogique quelqu'un de constructiviste et il me semble qu'on ne peut pas faire ce genre de choses. Donc je vous ai demandé à tous, d'ailleurs je pense que mes mails sont arrivés à tout le monde, j'ai demandé à tous si vous aviez des expériences à exposer et ensuite nous allons bâtir à partir de vos expériences. Des 21 mails que j'ai envoyés, je n'ai eu que extrêmement peu de réponses. Je vous avais demandé deux choses. Une première qui était d'abord de signaler si vous aviez des expériences ou non, et une deuxième qui s'adressait à tout le monde et qui était votre point de vue spontané en 10 lignes, pas plus. Votre point de vue spontané sur le partenariat école-association. Mais je n'ai eu que 4 réponses, une cinquième est arrivée un peu tardive, et sur ces 4 réponses, il y a 3 personnes qui ont proposé de présenter leur expérience. Ces personnes se reconnaissent ? Il y a Monsieur Pickman, il y a Monsieur Martin, il y a une troisième personne dont j'ai égaré la feuille. Alors, pour essayer d'être le plus pratique possible, je vous avais demandé dans ce mail d'essayer d'exposer en 10 minutes. Si nous avons 3 personnes qui exposent une expérience, ça nous fait une demi-heure. Et ensuite, nous allons travailler en groupe. Je vous imaginais 18, mais vous êtes beaucoup moins que ça. Mais on va essayer de travailler en groupe. D'une part, on va faire quand même un groupe sur les caractéristiques du partenariat et un deuxième groupe sur comment évaluer ces partenariats-là. Et donc, je pense que je ne prends aucun des orateurs ou des beautés. Vous allez. Alors, ce que je ne voudrais pas, c'est que vous passiez beaucoup de temps sur l'exposé de votre expérience. Bon, bien sûr, elle a ses mérites et il faut bien sûr savoir de quoi on parle. Mais je voudrais surtout que vous insistiez sur les conditions, les caractéristiques, le fonctionnement des partenariats qui ont été liés à cette expérience.
Je veux bien essuyer les plâtres. Je ne sais pas si le micro est très utile, mais enfin. Alors, j'ai pas eu le temps, comme je vous l'avais dit, j'ai pas eu le temps de faire un petit support. Voilà. Alors, donc, je vais essayer de vous exposer très très rapidement. un projet qui a été monté dans mon établissement scolaire en collège, quand j'y suis arrivé, donc qui a couru de 2006 à 2009, à peu près, enfin jusqu'à la précédente rentrée scolaire. Donc on était parti d'une observation de départ, donc je vais essayer d'être vraiment synthétique sur ça. Une observation de départ qui était la présence d'un terrain vierge, en fait, qui était situé entre, grosso modo, l'internat et le bâtiment scolaire. Bon, donc ce terrain vierge, il posait des problèmes depuis de nombreuses années. Et on nous a demandé, enfin, surtout le chef d'établissement, de proposer quelque chose sur ça. Donc on avait quelques moyens de réunion, notamment quelques HSE d'ici et là qui ont été distribués pour ça, ce qui n'était pas mal. Bref, en parallèle de ça, j'avais participé à un colloque sur l'eau il y a quelques années. J'avais rencontré une personne qui venait du Bénin et qui avait fait un exposé très intéressant sur l'eau au Bénin, l'eau en Afrique et l'eau au Bénin notamment. Et donc j'avais gardé son contact et je lui ai demandé de venir faire une intervention avec les élèves, sur la gestion des terres en Afrique. Voilà, donc il est venu en qualité de griot quelque part. Voilà, il a raconté une histoire un petit peu. Et c'était assez intéressant. Et on a appuyé cette intervention sur un film qui est Genesis, que vous connaissez peut-être, qui est aussi basé sur le même mode de médiatique en tout cas. Voilà, donc on a lancé après ça auprès des élèves la question. Ben voilà, on a un terrain. On nous demande de faire quelque chose avec. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Donc ça a été l'occasion de lancer un débat. Et puis l'idée naturelle qui est sortie de ça, c'était on va aller voir ce qu'il y avait avant, tout de suite. On va aller voir à quoi servait ce terrain-là. Donc ça a été l'occasion d'aller voir les anciens du village. J'ai pas précisé, c'était un collège rural isolé, on avait 100 élèves à l'intérieur à peu près. On travaillait avec une classe de 25 qui a suivi de la 4e jusqu'à la. Enfin de la 5e, pardon, jusqu'à la 3e. Donc on va voir les anciens du village. Nous ont expliqué que c'était un verger avant. Et du coup, l'idée assez simple et puis après tout, tout à fait percutante des élèves, c'était on va refaire un verger. Voilà. Donc à ce moment-là, les collègues et moi-même, on a recadré le projet en essayant de remettre ça dans des problématiques et des enjeux qui sont liés au développement durable, puisque c'était aussi une commande qui nous avait été faite. Donc des enjeux économiques avec le financement qu'on a essayé de faire percevoir aux élèves, sociaux avec des autorisations pour travailler sur les terrains auprès de la mairie, auprès du rectorat, c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis quelques enjeux écologiques, qu'est-ce qu'on va planter comme espèce, quels seront les impacts, est-ce qu'on peut connaître les impacts, etc. etc. Je ne sais pas si je suis assez rapide. Voilà, et pour répondre à ces questions-là, en fait, c'était à ce moment-là qu'on s'est dit, ben voilà, là, il faut se tourner vers des professionnels ou vers des gens qui sont spécialistes du fait pour avoir quelques billes sur ça. Donc, on a fait une recherche de partenaires. Alors, je vous cache pas que cette recherche de partenaires, elle a été surtout encadrée par les enseignants de l'établissement et moins par les élèves, à part pour quelques connaissances. Donc on a travaillé avec. Donc je vais pas utiliser le terme d'association parce qu'il n'y a pas eu que des associations. Donc pour n'en citer que quelques-uns, on a travaillé avec le parc naturel régional Livradois-Forez, qui nous a apporté justement quelques réponses sur le financement et quelques idées sur un recensement a priori de la biodiversité du site. On a travaillé avec un ethnobotaniste, enfin une ethnobotaniste qui travaillait sous contrat privé, qui a apporté une sensibilisation écologique aux élèves au niveau de ce terrain-là. On a travaillé également avec la mairie de notre petit village et puis le rectorat pour obtenir les autorisations officielles. Ça a été extrêmement long, ça nous a pris quasiment une année. Enfin, je vais pas vous parler des affres du rectorat, mais vous le connaissez aussi bien que moi. Et puis, on a travaillé également sur cette première année avec un architecte des paysages pour l'implantation de nos essences, pour le choix et pour l'implantation de nos essences en fonction des caractéristiques du terrain. Voilà. Donc c'était à peu près la fin de la première année. On n'a pas eu l'occasion, et c'était un gros point critique, de faire d'évaluation de travail de cette première année. Mais étant donné que l'équipe pédagogique ne bougeait pas et qu'on relançait le projet sur 2 ans minimum, on a pris la suite. Donc par la suite, le projet a un petit peu évolué vers la biodiversité, en sachant qu'on s'est cheminé tout doucement vers l'année de la biodiversité. Donc on a travaillé notamment avec la LPO et on a essayé avec eux de monter un refuge LPO et de justifier aux élèves pourquoi est-ce qu'on montait un refuge LPO. En fait, grosso modo, pour être très rapide, on est sur un passage, sur un couloir de migration, et donc notre site était particulièrement adapté pour recueillir des passages de migrateurs. Voilà, tout simplement, je vais pas aller plus loin. Voilà, donc on a travaillé un petit peu sur cette biodiversité. Ça a été l'occasion de monter un certain nombre de partenariats avec une association qui s'appelle Les Petits Débrouillards, que vous connaissez peut-être. Ils ont quelques petites choses en France. Donc Les Petits Débrouillards, en fait, on les avait fait venir. Et eux, ce qu'ils nous ont proposé, on leur a pas passé de commande, puisqu'il faut savoir qu'ils ont un mode de fonctionnement un peu particulier. On leur a pas passé une commande très précise. Et en fait, on a travaillé avec eux. Ils nous ont orienté sur quelque chose qui était la construction d'outils, finalement, pour pouvoir observer, recenser et puis voir comment évoluer cette biodiversité. Donc c'était quelque chose d'extrêmement intéressant. J'avais jamais travaillé avec eux. Je l'avais fait sur conseil et j'ai appris beaucoup de choses extrêmement simples, effectivement, et très pratiques. Par exemple, pour vous donner deux ou trois idées, les micro à fourmis, les loupes à poissons, ce genre de choses-là, des choses qu'on peut faire avec les objets du quotidien. Bref, on a travaillé également avec une autre association qui est la mienne, d'ailleurs c'est une association de photographes naturalistes, où justement on a fait des clichés avant, pendant, après, pour essayer de recenser un tout petit peu cette évolution de biodiversité. Et puis on a travaillé également avec une structure d'éducation à l'environnement pour changer d'échelle. On est passé de l'échelle locale à l'échelle du territoire. On n'est pas allé plus loin parce qu'on a jugé que c'était assez compliqué sur cette première échelle en deuxième année. Voilà, et là par contre on a terminé cette année sur une évaluation qui était faite sous forme d'un QCM en fin d'année qui a été distribué aux élèves et qui a été traité en partenariat entre les collègues de l'établissement et le parc Livradois-Forez. Voilà, et sur la troisième et dernière année, donc on est resté sur cette idée de biodiversité puisqu'on était encore sur l'année courante. Et on a voulu changer d'échelle, donc on a travaillé sur la biodiversité sur le Haut-Forez, grosso modo au-dessus de 1300 mètres d'altitude. On a travaillé notamment sur les tourbières, avec un certain nombre de partenaires qui ont été l'ONF, que je ne dise pas de bêtises, un agriculteur qui avait une sensibilité assez avancée sur les problématiques écologiques, et puis un autre agriculteur qui lui n'était pas du tout sensibilisé par les problématiques écologiques et qui pour lui était extrêmement même pénalisante dans son travail. Voilà, donc ça a été l'occasion de montrer un petit peu le débardage à cheval aussi à cette occasion. J'en dirai quelques mots si ça vous intéresse un peu plus tard, parce que j'ai appris beaucoup de choses à ce moment-là aussi. Voilà, et puis à la fin de l'année scolaire, c'était l'année dernière, donc il était prévu d'organiser un voyage qui devait se faire soit au Bénin, soit, grosso modo, en Guyane française. Bon, normalement, on devait faire ça en partenariat avec un collègue, avec deux établissements du coin. Et ça n'a pas pu être fait puisqu'on a eu une coupure nette et précise des financements sans aucune explication. Donc grosso modo, on avait un budget de 28 000 euros et on est passé à rien du tout. Donc notre budget voyage a été terminé. On avait fini à peu près notre projet, mais au niveau des élèves, c'était extrêmement, extrêmement décevant. Voilà. Je ne sais pas si j'étais assez clair sur le travail avec les partenaires ou s'il faut apporter des précisions. On le fera peut-être tout à l'heure. Alors là, on avait une classe, en fait, parce qu'on avait intégré ça dans un projet un peu plus large, qui était un projet sport, environnement, au sens propre du terme, et patrimoine, puisqu'en fait, on avait eu un budget alloué spécialement pour ce projet un peu exceptionnel par le rectorat. Donc on était dans ce cadre-là. Donc on avait une classe de 6e, une classe de 5e, une classe de 4e. Et en environnement, moi, j'ai pris la classe de 5e, qu'on a suivi en 4e, en 3e. Alors, dans le comité de pilotage, donc on était déjà l'ensemble des intervenants du collège, à savoir donc on était 4 professeurs sur ce projet, donc SVT, histoire géo, français et documentation. À ce comité de pilotage s'est rajouté le chef d'établissement, la gestionnaire, puisqu'on a parlé, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a fait un petit travail avec le personnel TOS de l'établissement aussi. Bref, donc la gestionnaire, le chef d'établissement, des responsables du parc Livradois-Forez aussi également. Et puis après, on a lancé un certain nombre d'invitations, non pas en tant que participant, mais au moins un certain nombre d'invitations, à quelques associations. Donc on a eu la LPO qui nous a envoyé une personne une fois, et les autres n'ont pas forcément donné suite, puisqu'ils avaient du travail. Ou qu'ils n'avaient peut-être pas, ils jugeaient peut-être pas une importance extrême sur ce projet-là. Donc voilà. Alors oui, ça c'était prévu. Exactement, c'était planifié. C'était planifié. Alors ça, c'est une bonne question. On a envoyé des mails au rectorat, on a envoyé des mails au recteur. C'était un financement rectoral, oui, là. C'était un financement rectoral exceptionnel. Qu'on avait depuis, donc c'était un an avant que j'arrive, donc ça faisait la quatrième année qu'on avait ce financement qui était à hauteur de 28 000 euros à peu près par an. Ce qui est quand même fort correct pour faire des projets. Donc là, ça s'est arrêté du jour au lendemain. On n'a pas su pourquoi. On a eu, alors grosso modo, pour essayer de vous expliquer, à partir du mois de décembre, un peu avant les vacances de décembre, on a reçu une lettre du rectorat, pas un coup de téléphone, une lettre qui nous a demandé de suspendre les frais liés au projet sport, environnement, patrimoine. C'est pas que nous, hein, c'était pas que notre partie. pour l'ensemble du SEP, là, du sport environnement patrimoine. Et au mois d'avril, on nous annonçait que nous n'avions plus de financement pour l'année en cours. Et donc, il fallait qu'on annule même les projets qui avaient été lancés depuis le mois de septembre. Voilà. Sans une explication supplémentaire. Mais là, c'est pas de mon niveau. Je n'ai pas d'idée là-dessus. Alors, les inspecteurs sont venus la première année justement assister au comité de pilotage, pas en faire partie malheureusement. On n'a pas eu de soutien particulier des inspecteurs, non. Non, non. Les deux premières années, oui. La troisième année, je pense que ça tournait un petit peu. Ça tournait. On savait que c'était là. D'ailleurs, on a fait un certain nombre d'interventions dans des colloques, des formations rectorales pour ça, des formations IFM qui ont été montées aussi à partir de ça. Et quand le financement a été coupé, ça a été uniquement rectoral. On n'a eu aucune information de nos IPR, d'une quelconque matière que ce soit d'ailleurs. Non, pas de financement extérieur. Alors oui, notamment avec la LPO. Donc la LPO, ils l'ont trouvé, ils les ont contactés eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'était une démarche. Enfin, on avait aussi fait des démarches d'enseignants à côté, hein, quand même, pour cadrer un petit peu l'intervention et la qualité d'intervention. Mais la recherche des partenaires a pu être faite par les élèves. Grosso modo, le couloir de migration, si tu veux, c'était quelque chose qui était dans l'esprit de toutes les personnes qui habitent dans le village. On le sait qu'on est là. On avait eu un projet d'éolienne, justement, sur le haut forest qui avait été abandonné, justement, parce qu'il y avait eu une étude d'impact et que, grosso modo, ça avait fait un tollé. Et finalement, tout le monde savait qu'on avait un couloir de migration. Donc, la LPO, c'est arrivé très, très facilement dans la tête des élèves. Et puis, le deuxième qui a été trouvé, c'était les petits débrouillards. Donc là, c'était vraiment une recherche qui avait été faite par Internet. Vraiment, toute simple. C'était le hasard complet. Donc moi, j'en avais entendu parler en tant que prof de SVT, puisqu'on avait fait une formation dessus à l'UFM il y a quelques années quand on était stagiaire. J'avais pas du tout retravaillé avec eux. Puis après, on s'est dit, ben, pourquoi pas, puisque leur site internet était pas trop trop mal. Et finalement, c'est les élèves qui ont fait la démarche auprès d'eux. Mais dans tous les cas, une fois que les contacts étaient pris, la majeure partie des associations ont voulu se tourner déjà vers nous pour cadrer le contenu. Après, ils ont fait évoluer en général ce qu'ils apportaient en cours de séance, en cours de travail. Donc avec la LPO, on a fait 3 séances. Avec les petits débrouillards, on a fait 2 séances. Donc nos séances faisaient 3 heures à peu près. Voilà. Et après, bon, on n'a pas eu... Pour faire intervenir une ethnobotaniste, évidemment, c'était pas forcément à la portée des élèves. On était au niveau du collège, donc ça, c'était des connaissances, etc. etc. Voilà. Et on a eu un partenariat très intéressant avec le parc Livradois-Forez, qui a justement une personne qui est déléguée à l'éducation à l'environnement et qui nous a ouvert beaucoup de contacts. Hein. Les réseaux qu'on n'avait pas, lui, nous les a proposés. Et c'est vrai que ça nous a fait évoluer le projet. En sachant que je l'ai pas dit au début, mais le fil rouge de cette intervention, c'était justement que les enseignants interviennent le moins possible. Et donc le projet a beaucoup évolué. La première année, moi, quand je suis arrivé dans l'établissement, on savait pas du tout vers où ça allait partir. Et puis en fait, ça s'est organisé de lui-même. Puis il faut dire aussi qu'on a eu quand même des élèves qui étaient particulièrement investis là-dedans. On a eu le personnel TOS aussi qui s'est bien investi, puisque quand on a travaillé sur le terrain, justement, il fallait aussi parler de l'entretien du terrain. C'était un gros problème, et c'était notre personnel TOS qui le faisait. Donc il a fallu les impliquer. Alors on n'y pensait pas forcément au départ, mais c'était une grosse problématique qui a été soulevée par la gestionnaire et qui était intéressante, puisque dans le comité de pilotage, je l'ai pas dit, mais il y avait des élèves aussi. Donc qui était intéressante à voir. Et je sais plus si j'ai répondu à ta question. Oui, c'est bon. Ok. Voilà. D'accord. Alors, votre première question, c'est sur le comité de pilotage. Est-ce qu'on avait des... Donc, effectivement, on avait le parc qui a vraiment beaucoup, beaucoup participé, qui était là, tous les comités de pilotage qui est venu dans l'établissement, sans financement d'ailleurs, travailler avec nous sur le projet. Dans le comité de pilotage, on avait un délégué de la mairie, qui était d'ailleurs chasseur, donc ça a soulevé un certain nombre de débats animés, mais un délégué de la mairie qui s'intéressait à cette question-là et qui, en plus, avait deux de ses enfants au collège, donc ça lui permettait de mettre un petit peu plus le pied dedans. Donc oui, les partenaires locaux étaient assez investis. En même temps, il faut pas se leurrer, c'était un petit établissement avec peu de partenaires autour, donc c'était difficile de ne pas les toucher de près ou de loin. Ensuite, en ce qui concerne l'évolution du projet. Donc l'orientation, la réorientation, elle a été faite un petit peu dans le comité, je vais dire plutôt en fonction des contraintes qui nous ont été imposées. Quand on parlait justement tout à l'heure, je parlais de la gestion avec l'entretien du terrain, donc c'est un point auquel on n'avait pas forcément pensé, qu'il a fallu intégrer. Voilà. Et puis le projet a évolué aussi en fonction des réseaux et en fonction des différents contacts qu'on a pu faire. Voilà le deuxième, je pense, grand point d'évolution. Et sur la dernière chose, les décisions modificatives. Alors, finalement, dans ce comité de pilotage, grosso modo, on en avait deux par an. Trois la dernière année compte tenu des problèmes financiers. Donc on en avait deux par an. Les décisions modificatives étaient plutôt validées que proposées, en fait, puisque le projet évoluait plutôt en cours et ensuite on exposait pourquoi est-ce qu'il avait évolué et en général ça posait pas de soucis. Donc malheureusement on a pris peut-être le problème à l'envers pour les décisions modificatives.
Voilà, donc le titre, c'est ce qu'on m'a demandé de traiter, le monde associatif et l'éducation au développement durable scolaire, la question du partenariat. Mais bon, il ne s'agit pas que du monde associatif, on pourrait donner aussi des exemples du sorti du même tonneau avec le partenariat avec les entreprises, par exemple, qui posent autant de problèmes. Donc, le partenariat n'existe que dans un champ de pouvoir. Alors, finalement... Il faut bien distinguer le partenariat véritable dont on parlait tout à l'heure et l'idée de partenariat. Et depuis une dizaine d'années, c'est l'idée de partenariat qui nous a complètement submergés. D'entrée de jeu, on peut dire que la notion de partenariat a un champ sémantique tout à fait flou. Autant il peut être très stimulant du point de vue de la réflexion, nous inviter à revoir nos pratiques, et autant il peut nous mettre dans une complète dépendance à l'égard des idées à la mode, surtout depuis une dizaine d'années où elles sont issues du champ de la gestion des entreprises et du management. Voilà. Et ce que l'on voit actuellement, eh bien, c'est essentiellement que le partenariat est d'abord considéré comme un outil publicitaire. Bon, vous savez très bien qui est le partenaire de vos vacances, vous savez quelle industrie de boissons gazeuses est partenaire des Jeux Olympiques. Du point de vue politique, on a lancé un partenariat euro-méditerranéen, ou ce qu'il en reste depuis les événements récents. Et le partenariat est raccroché à un certain nombre de choses, et il s'agit d'abord d'une question d'affichage. Un deuxième point qui est intéressant aussi, c'est que partenaire a changé de sens depuis quelques dizaines d'années. Partenaire était un mot de la sphère privée. On peut avoir des partenaires de jeu, des partenaires, Dieu nous garde, sexuels, des partenaires de toutes sortes, et ce mot s'est déplacé vers la sphère publique. Et cela reflète eh bien l'ère du temps, c'est-à-dire le passage d'une relation subjective à un outil de distinction sociale qui montre l'appartenance, l'affiliation. Voilà, il faut donc exister dans le champ institutionnel, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on place tous ces logos à la fin des ouvrages pour montrer quels ont été tous les partenaires, qu'ils aient participé activement au projet ou non. Et du point de vue personnel, l'adhésion au discours partenarial, c'est une manifestation de l'implication. Alors, on fait allégeance aux règles de visibilisation qui nous affectent tous. Il faut être vu et il faut être vu en réseau. Donc, c'est une... Pour les sociologues actuellement, eh bien, c'est le partenariat, c'est en partie une image sociale, une mise en scène du lien avec les autres. Voilà, en plus, c'est affreux ce que je dis, le partenariat a une image d'efficacité. On travaille beaucoup mieux, on est plus intelligent à plusieurs que tout seul, bien entendu, et on travaille beaucoup mieux à beaucoup que isolé. Et donc, il véhicule avec lui une image d'utilité, Le partenariat a pour but de développer l'efficacité de l'action. Il permet de rationaliser les relations dans une logique qui est une logique contractuelle, qui est quand même très diffusée actuellement. Il est intégrateur. Voilà, face au risque d'exclusion, de marginalisation, de fracture, de délitement du lien social, rien de mieux qu'un partenariat. Et enfin, il est représentatif d'une nouvelle socialité, les réseaux, les tribus, etc. Il a une deuxième fonction. Là aussi, dans l'utilisation de l'idée du partenariat, qui n'est pas forcément véritable, on va voir tout à l'heure ce que peut être un véritable partenariat, celui qui a été défini par les chercheurs des années 90, mais qui n'est peut-être plus celui qui règne actuellement. Eh bien, il substitue une relation politique, une relation qui est simplement méthodologique, c'est-à-dire qu'il dépolitise les relations sociales. C'est pour ça d'ailleurs que je m'intéressais lorsque vous avez discuté de vos projets, je m'intéressais au conflit. Est-ce qu'il y avait eu des relations conflictuelles? Est-ce qu'il y avait eu des différences de point de vue? Comment ça avait pu être réglé? Comment fonctionnaient les comités de pilotage, etc. Parce que, finalement, le lien social, c'est un lien d'altérité. Et le lien avec l'autre est nécessairement conflictuel d'une certaine manière ou d'une autre. Et c'est justement le but du lien social que de résoudre ces conflits. Et donc, on substitue aux relations politiques une approche méthodologique qui est pacifiée, puisque dans un partenariat, eh bien, il y a régulation de toutes les tensions. C'est d'ailleurs intéressant lorsqu'on regarde justement l'idée de développement durable. L'idée de développement durable, c'est justement de pouvoir gérer les situations écologiques, sociales, économiques, de façon à pouvoir éviter des crises, par un principe de précaution, par toutes sortes de choses, mais le but du développement durable est d'éviter les crises, d'éviter les conflits, d'éviter les guerres et d'éviter d'une manière générale ou de régler les tensions par la discussion. C'est l'idée du philosophe allemand Habermas, créer un espace public et régler les problèmes par la discussion sur la base du meilleur argument dans cet espace public qui est automatiquement transparent. Donc, si on veut, le partenariat, il est lié au développement durable. Il existait auparavant, mais c'est le développement durable qui lui a donné beaucoup de ressorts, et on ne peut pas s'empêcher de penser à l'essor du développement durable parallèlement à une économie néolibérale, mais ça c'est mon point de vue personnel. Donc en tout cas, il s'appuie sur le désenchantement du politique. Le deuxième point que je voudrais aborder, et il sera peut-être un peu plus rapide, c'est qu'en est-il alors des partenariats de l'éducation nationale et des associations? Et c'est peut-être un peu provocateur, mais enfin vous aurez la possibilité de répondre. J'ai imaginé qu'il s'agissait de partenariats contraints. Bon, ceci vous connaissez. Bon, moi ce qui m'intéresse ici, c'est l'éducation. L'éducation à l'environnement, pour le développement durable. Notons qu'il y a des domaines qui ont échappé à l'EDD et qui sont pris en charge sur des mécanismes un peu différents, l'éducation au développement et à la solidarité internationale, de même que dans certaines académies, l'éducation l'éducation aux risques naturels. Tout ceci donc se passe dans les années 90 et 2007. Je vais passer peut-être un peu vite, mais parce que probablement vous savez tout cela et cela a pu être dit déjà hier, d'une circulaire à l'autre, des restrictions croissantes en ce qui concerne les liens entre l'éducation nationale et les organismes du réseau, du secteur associatif. La circulaire de 1977 avait sa dynamique propre, elle est ancienne, et elle se basait en partie sur les classes transplantées, les classes vertes, le travail avec des spécialistes, des chercheurs, etc. La circulaire de 2004, eh bien, qu'est-ce qu'elle dit ? J'ai relevé juste ce qui concernait le secteur associatif. Depuis 1993, date du deuxième protocole d'accord, etc. Elle se décline localement avec des services déconcentrés, des ministères, des collectivités territoriales et locales, des institutions, des grands organismes et des réseaux du secteur associatif. Bonnour et Agnorel, dans leur diagnostic préalable, avaient bien montré que les associations d'éducation à l'environnement étaient là et qu'il fallait les utiliser dans un partenariat qui pouvait être qualifié d'utilitaire, mais après tout, pourquoi pas. Et dans la circulaire de 2007, les associations n'entrent plus que dans le domaine de tout acteur civil, que ce soit les entreprises, les associations, les fondations, dont l'expertise en la matière peut permettre de mener au mieux le projet de l'établissement, et bien sûr, c'est l'établissement qui pilote. Ne pensez pas que je critique. J'expose juste les faits et vous en penserez ce que vous voudrez. Donc, vis-à-vis des partenariats, des restrictions qui semblent croissantes, alors que, par ailleurs, l'école s'ouvre. De sa propre volonté, sans doute, du fait aussi que les financements sont de plus en plus croisés. Elle s'ouvre depuis les années 80 avec les ZEP, les contrats éducatifs locaux, devenus ensuite les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, qui font intervenir les collectivités locales et également des partenariats qui sont maintenant de plus en plus écoles, parents d'élèves, associations. Et les collectivités locales, vous le savez, interviennent également dans la gestion des bâtiments, de certains personnels, et aussi les collectivités locales s'intéressent également au devenir des écoles établies sur leur territoire. Et donc, on a, ceci n'est pas de moi, mais je l'ai trouvé sur Internet, je l'ai trouvé bien, et donc je l'ai réutilisé. On a donc des projets éducatifs locaux qui sont liés aux projets familiaux, aux projets d'école, aux projets d'établissement, qui sont donc strictement éducation nationale, à un certain nombre de projets éducatifs, pas uniquement de DD, mais aussi des projets sociaux, des projets de toutes sortes, et enfin qui sont liés aussi aux projets municipaux ou aux projets intercommunaux qui financent et qui quelquefois met la main à la pâte, si je puis dire. Bon. Voilà donc ce que je vois du point de vue de l'école. C'est ma partie qui travaille dans les IUFM. Maintenant, ma partie qui travaille dans les associations, je trouve qu'il y a une très grande diversité d'associations. Celle, d'une part, elle varie en fonction des utilisateurs des services qui sont liés au travail des associations, ici, et elle varie en fonction du bénévolat, du salariat, et éventuellement alors de choses qui condamnent, à mon sens, les associations, c'est-à-dire la disparition des adhérents, et pire encore, la disparition des conseils d'administration qui transforment les associations en bureaux d'études ou en entreprises camouflées. Et donc, en fonction de ces deux variables, eh bien, vous avez des situations associatives qu'il convient quand même de pouvoir décrire. Alors, ces associations d'éducation à l'environnement, eh bien, elles ont également, comme l'éducation nationale, eh bien, elles ont aussi une idéologie. Alors, elle est très variable. Elle est très variable. Mais enfin, elles sont liées en grande partie à l'éducation populaire. Et vous savez que l'éducation populaire s'est construite en partie contre l'école de 1920-1930 qui était considérée à l'époque comme une école de classe qui favorisait la réussite des enfants de la bourgeoisie. Et donc l'éducation populaire a cette tradition de prendre en compte les intérêts des classes populaires. Et elle est en symbiose avec une pédagogie qui est fortement influencée par les travaux de Célestin Freinet, d'ailleurs qu'on a beaucoup oublié, qui, si on regarde aussi un peu, avec un peu de sévérité, le travail des associations n'est peut-être pas conforme à ce qu'avait dit Freinet lui-même. Et enfin, pour terminer avec cela, le monde des associations a pris énormément d'importance depuis les années 90. Bon, l'exemple de la LPO, par exemple, a été une croissance en plus de 15 ans de près de 100 fois le nombre d'adhérents qu'ils avaient au début des années 90 et d'à peu près 100 fois aussi le nombre des salariés qu'ils emploient. Et le monde des associations, eh bien, c'est aussi l'image du passage du bénévolat au salariat. Maintenant, les associations représentent en gros d'associations ANEEDD, parce que généralement, ils n'ont pas franchi le pas de l'éducation au développement durable. Ils sont restés à la circulaire de 2004. Et cela représente 10 000 emplois. Sur la partie de droite, eh bien, vous voyez l'évolution de l'emploi dans les CPIE dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, il a beaucoup augmenté depuis même la fin des années 90 jusqu'actuellement. On est passé de 500 salariés à près de 1 000 salariés, c'est-à-dire un doublement en 10 ans. Et ces associations qui étaient faites de bénévoles, eh bien, depuis qu'elles sont salariées, eh bien, se sont professionnalisées et d'une façon générale, le graphique de droite vous le montre, on est généralement pour les animateurs, pour les agents de direction, pour les chargés de communication, on est souvent à Bac plus 2, c'est-à-dire un DEUG, un BTS, souvent à Bac plus 3 et même pour beaucoup à Bac plus 4, puisque les associations environnementales, c'est ce que vous avez ici en noir. Bon, et le point de vue de l'éducation, du point de vue des associations, est assez particulier. Je pense que je vais laisser mon PowerPoint, même s'il est un peu bancal. Mais l'exemple des chartes de qualité, du GREN, c'est-à-dire une émanation du réseau École et Nature, l'émanation régionale du réseau École et Nature, eh bien, il y a des points qui semblent essentiels. L'éducation ne se limite pas à l'école. Il s'agit d'une éducation tout au long de la vie. Du point de vue spatial, elle ne se limite pas non plus à l'enceinte de l'école, mais elle est l'éducation, elle est aussi partagée par les parents, par les associations, etc. Et vous avez dans cette charte de qualité eh bien des choses qui rappellent un petit peu des éléments de votre évaluation. Voilà, par exemple, l'éducation environnementale relève de la responsabilité de tous, dans la pluralité des points de vue et sans prosélytisme. Et alors, on intègre la diversité, c'est très interdisciplinaire, justement, la diversité des approches, la diversité des démarches, etc. Et donc, je m'étonne un peu que dans des projets partenariaux, eh bien, il n'y a pas plus en amont, plus de conflits que cela, avec des points de vue qui sont idéologiquement assez différents, bien que respectueux, bien sûr, de l'apprenant, mais assez différents entre la vision du monde de l'école et la vision du monde des associations. Bien, je ne les oppose pas, bien entendu, puisque de toute façon, chacun a aussi sa propre vision du monde et les partenariats, de toute façon, ne sont pas des partenariats entre l'école et les associations, mais des partenariats entre des personnes qui bricolent en fonction de leur individualité, des nécessités de l'institution dans laquelle elles travaillent et du contexte. Donc le dernier point que je vais être obligé de massacrer, et ça me désole, c'est vers des partenariats apprenants. Ça, c'est vraiment l'idée qui ne se réalisera peut-être pas. Est-ce qu'il s'agit là d'un idéal ou est-ce qu'il s'agit d'une illusion ? Dans les caractéristiques, ça va, votre travail préalable va bien sûr beaucoup m'aider, puisque vous allez retrouver un assez grand nombre de choses que vous avez vous-même décrites. Pour qu'il y ait partenariat, il faut qu'il y ait un objet, un projet qui soit partagé. Ça, c'est la nature de la relation partenariale. Et cet objet qui est partagé doit être négocié, c'est-à-dire qu'on doit, à l'amont, arriver à un partenariat, à un contrat de collaboration. Alors, d'abord, peut-être un premier point, est-ce que le jeu du partenariat en vaut la chandelle. Parce que cela demande souvent énormément de travail. Et on peut se demander si l'école, à elle seule, eh bien, ne pourrait pas aboutir à des résultats au moins aussi efficaces que lorsqu'elle s'ouvre à l'extérieur et va chercher de la collaboration. Bon, cela est possible, mais si vous voulez établir des partenariats, eh bien, vous allez devoir reposer le partenariat sur un certain nombre de principes. Alors, un premier principe, c'est le principe d'intérêt mutuel des partenaires. Vous l'avez dit. Pour être viable, un partenariat doit, dès le départ, susciter un intérêt pour les différentes parties, toutes les différentes parties. Un deuxième point qui est important, et peut-être vous ne l'avez pas assez souligné, mais dans l'idéologie du partenariat, eh bien, il y a principe d'égalité des partenaires. Le partenariat repose sur des relations d'égal à égal, des relations qui sont non hiérarchiques. Un troisième principe, c'est le principe d'autonomie des partenaires. C'est-à-dire que ces différentes parties s'engagent de leur propre chef et demeurent libres de leur action. Donc, pas de partenariat contraint. Il y en a cinq. Un quatrième, c'est un principe de coopération entre les partenaires. Une entente partenariale s'inscrit, on l'a dit, dans un projet partagé. Et celui-ci n'a de sens que s'il y a entraide et échange signifiant entre les partenaires. Et enfin, il y a la question du temps. Il y a l'idée d'évolution entre les partenaires. Un partenariat s'inscrit au sein d'un espace-temps limité et qui nécessite une évaluation continue qui peut cesser si les partenaires, justement, ne s'entendent plus. Voilà. Alors, un dernier point, eh bien, ce sont les balises. Les balises à respecter quand on se trouve dans un établissement scolaire. Alors, d'après les différents auteurs, eh bien, il y a quand même l'éducation nationale est en grande partie dans ses droits lorsqu'elle affirme que la poursuite de buts éducatifs doit constituer l'objet premier des établissements d'enseignement. Alors ici, j'avais préparé pour la discussion une espèce de typologie des partenariats qui se développe en fonction de la réalité, c'est-à-dire de deux axes, entre un partenariat inégalitaire et un partenariat égalitaire. Et aussi, lorsqu'il y a une négociation, très souvent, cette négociation n'est pas formalisée. Souvent, d'ailleurs, on s'engage dans un partenariat sans avoir précisé les valeurs qui nous animent, la vision du monde que l'on peut avoir. Et donc, le deuxième axe, l'axe vertical, un partenariat formalisé et un partenariat non formalisé. En réalité, on ne peut appeler partenariat que le partenariat...
Excusez-moi, il y a quelqu'un dans la
taxi ? Oui, c'est moi. J'arrive. Donc, un partenariat, le seul partenariat valide, véritable, c'est celui qui se trouve ici, en haut à droite, le partenariat démocratique ou pluraliste, qui se développe souvent à moyen ou à long terme et qui est fondé sur l'équité, la régulation des différents acteurs sur les territoires. Les autres, eh bien, ce sont des partenariats hiérarchiques, ce sont des collaborations, ce sont des coopérations plus ou moins durables, mais ce ne sont pas réellement des partenariats. Je vais m'arrêter là et donc je voudrais souligner en conclusion la difficulté qu'il peut y avoir entre ces caractéristiques des partenariats qui ont été développés par les chercheurs dans la fin des années 80, des années 90, alors qu'on pensait qu'une des possibilités de développement de l'éducation pouvait être une relation librement consentie qui permettait d'ouvrir l'école. Eh bien, actuellement, il semble bien que ce soit l'idée de partenariat des managers et des gestionnaires qui est pris assez largement le dessus. Restent encore les pratiques individuelles, les pratiques à l'échelle des établissements qui peuvent établir des partenariats bricolés et qui peuvent résoudre les problèmes dans des contextes extrêmement locaux. J'espère que je ne vous ai pas trop froissé.